Regardez voir. La photo sur France Inter.
Bonjour et bienvenue avec deux adjectifs qui vont bien aux photographies que nous allons regarder cet après-midi. Intime, poétique. Je reçois des photographes qui travaillent sur ce matériau invisible à l'œil nu, l'intimité. Pour vous les présenter brièvement, je préfère vous donner le titre de leur série. Emmanuel Brisson, Les profondeurs du cœur. Dorian François, Pépé. Julien Magre, Trouble. Je n'ai plus peur du noir. Il y a aussi cette grande série, Elle. 300 photos de Caroline, sa compagne. Louise et Suzanne, ses deux filles. Avec ce texte qui commence ainsi, j'en lis juste quelques lignes. Elle, puis elle. Elle est d'abord arrivée comme une pierre précieuse. Elles sont ensuite arrivées comme de petites tempêtes de vie. Caroline, Louise et Suzanne, mes trois filles. Ma vie dans vos bras, mes bras comme des branches. Julien Magre est mon premier invité.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
Mais d'abord, Brutalisme, c'est un titre de Flavien Berger qui est inspiré du mouvement architectural du même nom.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. D'où tu verras les lignes et les rayons. Que dessine mon quad sur le sable. Sécheras tes larmes dans l'air climatisé. Ultime bain, noie ton chagrin. Je ne suis pas loin, en vrai. Je te rejoins le mois prochain. Je vais t'aimer. L'éternité. Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé. T'as zoomé dans mes plaies une fois encore. Tu vois mon épiderme, c'est la vallée de la mort.
Julien Magre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'une bonne photographie pour vous ?
Vague question. Pour moi, c'est une image déjà, c'est pas forcément une photographie. Elle n'est pas forcément pensée à l'avance, c'est-à-dire qu'elle peut surgir comme ça de nulle part. Donc il n'y a pas forcément de règles imposées. Donc une bonne photographie, c'est déjà celui qui la regarde qui va décider si elle est bonne ou pas, je pense. Et donc il n'y a pas de règles précises en tout cas. En tout cas, ça ne rentre pas dans les codes techniques.
Vous faites la différence entre une image et une photographie ?
Disons que pour moi, je pense qu'il faut rester un peu humble par rapport à ça et qu'une bonne photographie peut être une bonne image ou l'inverse. Mais pour moi, ça reste une image avant d'être une photographie, je pense.
Vous êtes un jeune photographe. Dans le monde de la photographie, 44 ans, c'est très jeune.
Ah d'accord.
Vous ne le saviez pas.
Merci. C'est...
Vous avez fait les arts déco.
Oui.
Ça vous a été très utile pour devenir photographe professionnel?
Oui, en sachant qu'aux Arts Déco, moi j'ai fait du graphisme, donc j'ai pas fait la section photo. Ça m'a aidé après pour fabriquer mes livres, parce que du coup je les fais souvent moi-même. En tout cas, je fabrique les maquettes et les livres moi-même, donc ça m'a aidé à ce niveau-là. Et même en termes de penser, finalement, ça m'a aidé aussi à me construire dans la pratique photographique.
On va parler de l'importance pour vous du livre. Et un premier appareil photo, chez vous, il est apparu quand? Mais premier, hein?
Premier, assez tard. Il y en avait sans doute un quand j'étais tout petit, mais je l'ai oublié. Mais le premier qui m'avait vraiment été très utile, ça devait être vers 16-17 ans de mémoire. Enfin, 18 même.
Et c'était quel genre d'appareil?
C'était un argentique, bien sûr, à l'époque. Et c'était, de mémoire, un Nikon, ouais. Un FM2 ou ouais, quelque chose comme ça.
Julien Magre, on va regarder une première image. Elle est décrite par Éric Delvaux. Il ne sait rien de vous. Il ne sait pas que vous êtes l'auteur de cette photographie. Il ne sait pas de quelle série elle est extraite. Écoutez, puis ensuite, vous réagirez sur ses propos.
Je vois une fillette qui doit avoir 10, 11 ans. Ce qui saute aux yeux, c'est que son visage est rouge. La photo est presque rouge et noire. Elle est assise, je crois, à l'intérieur d'une voiture. Et j'ai le sentiment que le rouge de son visage correspond à des feux stop d'une voiture à côté. Parce que c'est une photo urbaine. On y voit des points de couleur. Et c'est assez flou et contrasté en même temps. C'est assez étonnant d'ailleurs de ce point de vue-là. Et j'y vois surtout une moue. La gamine fait une moue. Elle est trimballée en voiture, elle regarde par la vitre de cette voiture et son visage en gros plan m'interroge sur ce que j'étais à son âge. Et donc ça m'inspire beaucoup.
Julien Magre, alors, quels sont vos mots après ceux d'Éric Delvaux? Vous qui êtes l'auteur de cette photographie.
C'est en effet une jeune fille, elle a 12 ans sur la photo, donc on est pas loin. C'est en effet une photo prise dans une voiture, c'est en effet de mémoire des feux de voiture qui éclairent ce visage. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on sait pas exactement où on est en tout cas, c'est que on sent le contexte de la voiture mais pas le contexte de la ville. Donc c'est ma fille qui s'appelle Louise. Et son visage devient presque un aplat rouge. C'est vrai qu'on distingue très difficilement son expression, ses yeux, parce qu'on est dans la nuit. Mais c'est vrai qu'on arrive à quand même lire une moue. Mais pour moi, c'est plus de la mélancolie ou un peu de tristesse peut-être. Ou peut-être de l'ennui d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est avec ce rouge qui devient une couleur très religieuse, comme ça, très, très forte. Presque un maquillage, en fait, ça remplit son visage. Ça devient une image un peu... mystique peut-être.
Alors vous êtes un photographe qui ne photographie que l'intimité de sa famille. Comment on peut être à la fois père, mari, photographe?
Quand je suis photographe, je pense que je suis plus mari justement et plus père, enfin, à mon avis. Heureusement que je ne fais pas ça 24 heures sur 24. Mais le statut de photographe, en tout cas, je pense que c'est tout à fait inconscient et instinctif. Je suis dans une position de spectateur quand je fais ces images. Du coup, il y a une distance aussi qui se crée quand je photographie ma famille. Ce qui crée, à mon avis, aussi un peu cette étrangeté, c'est qu'il y a quand même des scènes parfois intimes. Et il y a ce décalage qui fait que on ne sait pas qui prend cette image. En fait, c'est pas forcément le père. Enfin, c'est pas une évidence, en tout cas, parce qu'il y a une distance qui est un peu lointaine, souvent. Et les contextes sont souvent... assez peu lié à l'intime, c'est pas forcément des lieux habités ou etc. Donc l'étrange peut-être commence à ce niveau-là.
Et comment eux acceptent-ils d'être dans ce processus créatif photographique?
Ça se fait assez naturellement puisque il y a pas de mise en scène. C'est un travail très instinctif. Je travaille avec un petit appareil photo, souvent à l'argentique encore. Du coup, je suis assez discret et ça prend pas beaucoup de place. Je fais très peu d'images. Alors parfois mes filles ou ma fille maintenant, mais râle un peu, mais ça se fait assez simplement. Voilà, c'est surtout dans l'idée de la vitesse et du mouvement, c'est que c'est pas des protocoles, il n'y a pas de mise en scène, donc ça va plutôt vite.
Tout à l'heure, vous avez dit évidemment deux mots que je ne peux que remarquer. Vous avez dit mes filles, ma fille, mais on peut en parler de ce pluriel et de ce singulier, même s'il reste pluriel dans votre vie, puisque vous avez fait un livre qui s'appelle Je n'ai plus peur du noir, qui est lié à la mort de votre fille Suzanne.
Absolument. Donc, on va passer assez vite sur cet épisode finalement. Donc, en effet, j'ai commencé le travail sur ma famille d'abord par Caroline.
Votre épouse.
Caroline, mon épouse, en 99. Ouais. Et puis après, j'ai eu une première fille, une deuxième fille. Donc, mon travail a continué naturellement. Et puis. Plutôt des images de bonheur, plutôt joyeuses, etc. Et en effet, un grand malheur est arrivé sur nous. Nous avons perdu donc notre fille Suzanne il y a 2 ans, de la suite d'un cancer. C'était atroce. Et évidemment, la question s'est posée de savoir si je pouvais me permettre de continuer ce travail-là que j'avais commencé, éthiquement parlant, etc. Et en réalité, ça s'est fait très naturellement, parce que ça, c'est malheureusement dans le cheminement un peu de la vie, c'est-à-dire qu'il y a des belles choses et des moins belles choses. Donc en effet, j'ai continué ce travail.
Avec elle aussi.
Et voilà, avec elle, c'est que quand elle est tombée malade, donc elle est hospitalisée pendant 6 mois, et on a décidé de faire un livre ensemble, parce qu'elle adorait les livres. Et puis je lui ai promis qu'on sortirait ce livre tous les deux, après qu'elle soit guérie, etc. Ça n'est malheureusement pas arrivé, et donc je me suis forcé, c'était là évidemment très très compliqué, très dur, très violent, je me suis forcé à faire ce livre, pour lui rendre hommage en quelque sorte.
Oui, et puis parce que il y a Louise, il y a Caroline, et elles sont d'ailleurs à la fin du livre.
Elles sont dans la troisième partie du livre.
Qui sont des photos en couleur, qui sont des photos de vie, même voilà. Si avant elles sont aussi des photos de vie, celles de Suzanne, mais il s'agit pas de la même chose puisque apparemment elles choisissaient des objets.
C'est ça.
Et que vous les photographiez.
Voilà, et qu'elles choisissaient après. Donc là, c'est un travail que j'ai fait en numérique. Donc elles choisissaient des objets. De l'hôpital, que je ramenais à la maison, que je photographiais, et puis je le ramenais le lendemain, puis elle disait, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et la construction du livre a commencé comme ça. C'est-à-dire que la deuxième partie du livre, c'est en noir et blanc, c'est toute la partie de l'hôpital. Il y a ce va-et-vient d'objets, quelques portraits d'elle. Et la première partie du livre, c'est l'avant-maladie, on va dire. C'est juste avant, en fait. Et puis la troisième partie, c'est après, la reconstruction, on va dire.
Et qui a choisi le titre? J'ai plus peur
c'est
du
elle,
noir.
C'est Suzanne qui a choisi le titre. C'est quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a dit « Papa, depuis que je suis à l'hôpital, je n'ai plus peur du noir ». C'est l'une des premières phrases qu'elle a dites quand elle est arrivée.
Et le livre, il est signé de vous deux. C'est beau aussi, cette double signature. « Je n'ai plus peur du noir ».
Oui.
Mais c'est vrai que les mots sont très importants pour vous. Vous avez écrit un très beau texte. On sent que vous avez besoin des mots pour accompagner vos photographies.
De plus en plus, parce que déjà l'image ou la photographie ne peut pas tout dire, évidemment. Moi, mes images ne sont pas légendées. C'est-à-dire qu'il y a au maximum des dates, mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de nom. Donc en effet, les mots, les textes m'aident aussi beaucoup à analyser les choses, à mettre aussi un peu d'ordre dans ma tête. Même si je suis pas écrivain, je suis pas auteur, la question n'est pas là, mais c'est vrai que c'est un exercice qui me passionne de plus en plus, essayer de trouver des formules et des mots le plus juste possible pour exprimer une sensation ou une émotion intérieure, on va dire.
J'aimerais Julien Magre qu'on écoute. C'est Lucie Sarfati qui est attachée de production dans l'émission de Mathieu Vidard qui nous en parle.
Donc sur cette image, on voit 2 enfants et une jeune femme penchée, qui doit être la maman, j'imagine. 2 enfants de 4-5 ans, je dirais, qui sont sur un banc, dans des positions... Enfin, il y en a une petite fille qui est allongée les jambes en l'air. Et on voit ses petits cheveux blonds, tout en pagaille, qui coulent sur le côté du banc. Et à sa droite, il y a son petit frère, je dirais, un enfant plus petit, qui embrasse sa mère, qui est penchée vers lui. Ce qui me plaît dans cette photo, c'est que les sujets ne regardent pas du tout l'objectif. C'est vraiment un moment de vie qui est pris comme ça, qui évoque bien, je trouve, le sentiment maternel, une préoccupation des enfants et en même temps leur aisance, leur liberté d'être comme ça complètement avachis dans cette position sur le banc. Et les couleurs sont très belles aussi. Il y a une homogénéité dans les blancs, jaunes, marron, un peu ocre, doré, qui reflète bien les cheveux blonds des enfants et cette idée de l'enfance.
Julien Magre, vos couleurs sont magnifiques, c'est vrai. On a parlé du rouge qui était très présent. Et là, on est dans des couleurs ocre. Vous avez envie de parler, vous semblez silencieux.
Oui, c'est vrai que j'ai choisi cette image... un peu instinctivement, mais c'est vrai que là, en la voyant, tout d'un coup, forcément, ça me renvoie un peu ce que je disais tout à l'heure. Au passé, c'est ce qui fait la force de la photographie, c'est que tout d'un coup, je me replonge dans ce contexte et aujourd'hui, évidemment, il manque une personne. Donc c'est quand même bizarre.
Mais ce que disait Lucie Sarfati, oui, est bien sur l'idée du sentiment maternel.
Bien sûr, oui.
La position de chaque enfant, donc de Louise et de Suzanne et de Caroline, puisqu'on peut les nommer.
Oui, bien sûr.
Le cadrage.
Ben ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a cette distance, justement, je suis spectateur, c'est vrai qu'elle ne me regarde pas, c'est comme si j'étais extérieur à la scène. Et il y a aussi, encore une fois, ce contexte qui, pour le coup, n'est pas du tout un contexte intime. Le fond même est noir. C'est qu'on voit simplement un banc, mais c'est très difficile de savoir où est ce banc, où il se trouve. Et en l'occurrence, c'est sur un bateau. C'est vrai que c'est un coucher de soleil, un voyage qui durait de mémoire 4-5 heures. Et du coup, j'aime beaucoup cette image parce que il y a à la fois de la douceur et puis ce fond noir, il y a quand même quelque chose un peu d'angoissant aussi, d'étrange justement.
Étrange. Ouais. Et dans toutes vos photographies, il y a quelque chose qui apparaît, c'est la notion de temps. Je ne sais pas comment l'exprimer. Là en plus, vous venez de dire que c'est un bateau.
Oui.
Il y a peut-être quelque chose d'angoissant, mais il y a du temps qui passe. Il y a du temps qui passe dans vos images.
Il y a du mouvement peut-être.
Il y a du mouvement. Ouais. Où est-ce que ça s'exprime le mieux pour vous, la photographie? Dans un livre ou dans une exposition?
Ah, dans un livre. Parce qu'on peut se l'accaparer. Pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de l'histoire, de la narration. Le livre permet quand même ça. Et le fait de toucher aussi les images, ça, c'est pour moi très important. D'avoir une distance physique.
Ben, ouais. Merci beaucoup, Julien Magre. Merci pour votre présence.
Merci.
Bien sûr, vous avez un site qui est julienmagre.fr.
Absolument.
Tous vos livres sont édités chez Filigrane. Merci, au revoir.
Merci.
Just pass you by. black shadow as you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper.
Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that.
Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one.
Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Never love a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. You better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming, cause they will be coming for you. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, the blue lights are coming for you. What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, blue lights should just pass you by.
C'est une jeune mais déjà diva de la soul anglaise, Georgia Smith.
Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
Et je vous propose de rencontrer une femme qui travaille la photographie avec son corps, sa personnalité, et aussi avec sa mère. Emmanuelle Brisson est photographe, j'ai découvert son travail à Niort. Emmanuelle Brisson, comment la photographie est-elle entrée dans votre vie ?
J'ai commencé à faire donc des photos, énormément de photos, de façon très fulgurante, sans vraiment savoir ce que je faisais, mais de façon très personnelle, dans mon coin, toute seule, et en ayant très vite ressenti le besoin de faire des photos de personnes. De par ma pratique très isolée et très personnelle, je me suis mise moi-même en scène, puisque c'était difficile pour moi d'aller vers les autres en disant « j'ai des envies de photos, est-ce que tu veux poser pour moi ?» Donc ça, c'était carrément impossible. Donc je me suis moi-même mise en scène, et en fait c'était pas du tout un hasard. Ce que je faisais avec moi, les photos que je mettais en scène, tous ces autoportraits en fait, ça aurait été impossible de le faire avec les autres. Donc une espèce de série d'autoportraits est née comme ça, de façon encore une fois très fulgurante. Je me levais le matin, il fallait que je fasse une photo comme une urgence. Je rentrais entre midi et deux chez moi. Pendant mes pauses déjeuner, je mangeais pas, je faisais une image parce qu'elle était dans ma tête, il fallait qu'elle sorte. Enfin voilà, quelque chose d'assez étrange en fait, une fulgurance qui m'a saisie, qui a pris toute la place dans ma vie. Et voilà, je faisais mes images sans les montrer à personne, enfin en les montrant sur les réseaux sociaux mais de façon anonyme. Et puis avec un certain soulagement, une fois qu'elle était postée, livrée, je passais à autre chose. Donc c'était très bizarre, je vivais ça. J'étais très heureuse de faire ça en fait, très heureuse d'être rentrée dans cette espèce de folie. J'adorais et tout ça était très chouette.
Et au bout d'un moment, même si sur les réseaux sociaux elles étaient montrées de façon anonyme, qui vous a dit il faut les montrer, c'est bien, continue ce travail, Emmanuelle Brisson?
Bah, en fait, donc effectivement, vu par des communautés, des gens de plus en plus nombreux à me dire que c'était bien, à me mettre dans une posture de photographe, ce qui pour moi était, enfin, je me sentais pas du tout photographe, ni j'ai aucune légitimité à être photographe en fait, mais voilà, les autres me mettaient dans ce rôle, m'incitaient à montrer mon boulot, donc j'avais la chance d'être née dans une ville de photographie. Et donc après, voilà, j'ai commencé à montrer les images à des amis de façon extrêmement brouillon. J'avais aucune notion de série. On me disait, il faut faire une série. Je ne comprenais pas ce que voulait dire faire une série, montrer une série. Et donc j'ai fini par montrer mon travail à Jean-Luc Fouet et Patrick Delat à la Villa Perrochon, qui, Du coup, eux m'ont interpellée en me disant « il y a quelque chose, il y a quelque chose et il faut creuser ». Donc j'ai dû montrer à Patrick des centaines de photos en fait, parce que tout ça a été mais vraiment en vrac. Donc il y avait effectivement au milieu de tout ça ces fameux autoportraits dont j'avais même pas la conscience que c'était en train de qu'un travail était en train de naître en fait, avec bien plus de profondeur que ça semblait être. Et du coup Patrick m'a aidée à faire ce qu'on appelle l'editing, à faire des choix, et m'a proposé d'exposer ce travail à la Villa Perrochon en 2013.
Alors, il faut préciser que la Villa Perrochon, Patrick Delat, ouais, tout cela, ça se passe à Niort. Et vous êtes vous-même niortaise. Donc là, nous sommes en 2018 et vous exposez un autre travail qui s'appelle « Les profondeurs du cœur ». On est entouré des photos là qui sont absolument magnifiques. Moi, c'est un travail que j'avais vu à la BNF puisque vous avez eu quel prix d'ailleurs de la Bourse du Talent ?
Mention spéciale catégorie portrait en 2017.
Alors, quel est ce projet ? Les profondeurs du cœur, vous êtes à France Inter, les auditeurs vous écoutent. Racontez-leur comment il est né peut-être au départ.
Alors, ce projet est né, j'ai exposé en 2013 à la Villa Perrochon. Ça a été énorme pour moi parce qu'en fait, je suis née photographe, je crois, à ce moment-là. Une fois que mon travail a été montré, de devoir parler de ce travail. Et comme je n'avais pas du tout réfléchi, pensé, tout ça, que ça avait été fait de façon un peu fulgurante, j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait pendant 4 ans, incapable de faire quelque chose de... un autre travail conséquent, en tout cas sincère. Parce que je crois que c'est ça moi qui me porte, c'est la sincérité dans mon travail photographique. Rien n'est joué, rien n'est faux, mais mes autoportraits, toutes les mises en scène étaient réelles, il n'y avait pas de Photoshop, enfin voilà, tout était sincère et j'avais envie de refaire un travail très sincère. Et puis j'ai ma maman à mes côtés, très proche, une vieille dame de seule qui a perdu son compagnon, mon père, il y a très longtemps. Et cette vieille dame seule qui est ma maman est une femme extrêmement courageuse, rebelle, solide, du haut de ses 90 ans. Et j'avais envie de la mettre à l'honneur, voilà, de la rendre belle et puis de l'emmener avec moi dans mon travail photographique puisque elle me voit faire, elle ne comprend rien à ce que je fais. Elle me dit « mais tu ferais mieux photographier ces arbres-là en automne, c'est tellement plus joli ». Donc l'idée m'est venue de l'emmener avec moi et de la photographier dans ce travail de mise en scène en fait qui m'est cher, ce travail esthétique, de montrer la dureté de la vieillesse, mais de façon la plus belle possible. Donc pendant 2 ans, je l'ai prise en photo, donc ça a été un travail long, délicat, je ne savais pas du tout si ça allait aboutir en fait. À chaque sollicitation pour faire une photo, je me disais qu'elle va me dire non, qu'elle en a marre, qu'elle veut que j'arrête. Et puis elle me disait non, puis après oui. Voilà, ça a été des allers-retours comme ça, une façon où on s'est dit je t'aime, je crois.
Prenons une photo pour en parler un peu plus de cette photo et de la façon dont vous avez travaillé. Quelle photo voulez-vous choisir, Emmanuel ?
Peut-être la première que j'ai faite, en fait, qui n'était pas la plus simple, hein, qui est celle dans la forêt avec la fougère sur la tête, où on est partis toutes les deux un après-midi. Il faisait très doux, c'était un bel après-midi de début d'automne, il faisait une vingtaine de degrés. On est allé dans la forêt qui a bercé son enfance, une forêt à proximité du village où elle est née. Et puis j'ai commencé à la photographier au milieu des fougères, au milieu des arbres. Et dans la même veine de mes autoportraits, en fait, j'avais envie de la photographier comme si c'était moi qui étais en train de me photographier dans le même cadre et du coup masquer un peu son visage. Donc ce qui a été difficile, c'est de négocier le fait qu'elle se déshabille, puisque même s'il faisait 22-23 degrés, elle était comme un oignon pleine de couches. Et voilà, et donc j'ai négocié d'enlever le gilet, puis d'enlever le pull, et du coup très très vite faire cette photo où je lui ai posé juste la fougère. En fait, la fougère a tenu comme ça, de façon miraculeuse sur sa tête. Je lui ai demandé de fermer les yeux, elle s'est exécutée, j'ai fait la photo. Et en fait, je me suis dit, mais il faut vraiment que je continue, parce que si elle accepte de continuer à jouer le jeu comme ça, de venir avec moi dans mon monde, on peut faire vraiment quelque chose de bien.
Il y a des photos qui nous semblent, à nous spectateurs, un peu plus dures. Par exemple, à côté de cette photo, il y en a une autre ou c'est juste le visage de votre maman. Non, c'est pas de la peinture, c'est de l'argile, avec un masque
en fait.
D'argile.
Ouais, c'est, ça. Ouais.
C'est très fort cette photo-là.
Très fort, oui, d'ailleurs, alors moi je lui ai tout montré, hein. je montrais tout, je lui montrais les photos dès que je les avais faites, en fait, je retournais la voir, et bon là elle m'a dit, on dirait que je suis morte. Enfin, elle n'avait aucun doute de toute façon sur cet esprit-là omniprésent, hein, de mort, évidemment. Elle avait aucun doute là-dessus. Elle a râlé parce qu'il fallait attendre que ça sèche. Après, elle a compris ce que je voulais. Et bon, quand elle est venue voir, en fait, donc elle avait vu les photos, mais imprimées en petit, bien sûr. Elle n'a jamais vu l'expo, puisqu'elle n'a pas pu se déplacer ni à Paris, ni à Nantes. Donc, c'est la première fois ici à Niort qu'elle a vu les images. Et en fait, de la voir en grand format comme ça, elle a pu se rendre compte du détail, des craquelures, et je crois qu'elle n'a plus du tout vu comme quelque chose de morbide, mais comme quelque chose de très esthétique. Et là, j'étais assez contente, ouais.
Par rapport à la nudité, vous allez quand même encore plus loin que cette image-là dont on parlait, où votre maman porte une combinaison blanche avec des dentelles.
C'est ça.
Donc elle est encore un peu vêtue, mais il y a cette photo-là un peu plus loin, où elle est torse nu. Oui. Évidemment, on ne voit pas son visage, on voit son dos, elle est un peu de profil. Elle est époustouflante, cette photo, et ce qui me fascine, c'est qu'elle accepte à ce point d'entrer dans votre jeu photographique.
Oui, mais je suis moi aussi... quelqu'un me disait hier, c'est amour et incompréhension. Et je pense que vraiment, ce travail, c'est amour et incompréhension, parce que je crois que ma maman n'a pas plus compris ce que je faisais. Et moi, il y a des choses que j'ai pas compris non plus, en fait, puisque effectivement, qu'elle accepte ça, qu'elle accepte que cette photo fasse partie de la série, hein, qu'elle soit montrée. Voilà, moi, ça m'a énormément touchée. Après, ce que j'aime dans cette photo, c'est son dos courbé qu'a tant porté. Ses enfants, sa vie, son entourage. Ma mère, c'est quelqu'un qui porte, en fait. Et je trouvais que ce dos un peu courbé, c'était aussi ça.
Votre entourage, votre famille, comment ont-ils accepté, supporté, compris cette exposition?
En fait, je ne l'ai pas partagé vraiment avec eux. Voilà, c'est une histoire entre elle et moi. C'est vraiment quelque chose, j'avais pas envie que ça sorte. C'est déjà difficile, en fait, de lui faire accepter à ma mère, hein, ses poses, pour moi de le faire aussi, de mettre la distance nécessaire entre l'amour que je lui porte et en même temps un regard de photographe qui se doit de montrer des choses, j'ai pas voulu faire intervenir, parce que j'avais pas envie qu'on me dise non, ça oui, enfin que des gens me censurent, en fait.
Qu'est-ce que vous attendez des spectateurs? Qu'est-ce que vous aimeriez de la part des gens qui regardent toute cette série?
Eh bien, là où je suis très surprise, c'est que les gens rient, en fait. Les gens rient et sourient devant les photos. Les enfants sont fascinés aussi, me posent des questions. Et en fait, là où j'avais peur qu'il y ait beaucoup de gravité, je crois que les gens ont compris que j'étais en train de jouer avec elle, qu'elle avait accepté de jouer avec moi, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et les gens sourient, et ça me touche beaucoup. Et j'espère que j'aurai que des retours de ce genre, en fait, qu'on ne viendra pas me dire que c'est morbide, que c'est la mort, parce que... bien sûr, quand on photographie une femme de 90 ans, voilà, effectivement, c'est inéluctable. Mais ce qui alimente mon travail photographique, c'est vraiment l'idée de jeu. Et je crois que les gens l'ont compris. En fait, ça me touche beaucoup.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. No, sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to
side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Dorian François, bonjour.
Bonjour.
Je peux vous demander votre âge ?
33.
Donc vous êtes photographe depuis combien de temps ?
En gros depuis l'âge de 20 ans à peu près.
Comment s'est venue la photographie dans votre vie ?
Par le voyage.
Est-ce que c'est lié justement à ce livre Solitude qui retrace votre parcours en Chine entre 2014 et 2015 ?
Ouais, qui était une itinérance entre 10 grandes villes en Chine, qui est un pays dans lequel j'allais depuis déjà 12 ans, parce que j'avais fait des études de langue chinoise. Et du coup, oui, c'est un voyage d'un an en Chine pendant lequel j'écrivais et je faisais des photos tous les jours.
Mais vous faisiez des photos avec cette idée qu'un jour vous seriez professionnellement photographe, ou vous faisiez des photos comme tout le monde, quoi, avec votre portable, en touriste?
Le voyage en Chine et Solitude, j'étais déjà professionnel de la photographie. En tout cas, tout au départ, sur les premiers voyages, dans les années, en gros, 2005, c'est vrai que la photo, non, a accompagné les voyages que je faisais. C'était une manière d'en ramener quelque chose, de le raconter, de le partager, dans un but futur, à la base, de faire des reportages, puisque j'avais cette vision-là au départ.
Qui vous a donné cette vision-là au départ ? Qui ou quoi ? Ou qu'est-ce qui vous a donné cette vision-là ?
Pour le coup, c'est plutôt précis. Ça sera, je pense, comme beaucoup peut-être, c'était les photographes de l'agence Magnum et un documentaire que j'avais vu sur Cartier-Bresson sur Arte. Et je m'étais dit, ah tiens, on peut faire des images comme ça avec un appareil photographique qui me semblait pas très compliqué à aborder. Je me suis dit, je vais faire pareil.
Et vous avez fait pareil.
En tout cas, voilà, j'ai fait mon chemin.
Parlez-moi de ce livre, et de ce travail en Chine, Solitude, où il y a deux choses importantes. Il y a d'un côté la photographie, et par ailleurs les textes que vous écrivez, qui ne sont pas des textes de voyage, un journal de bord. Ce sont des notes qui pourraient peut-être même être publiées sans les photographies.
Alors, c'est plus ou moins juste, c'est-à-dire que ça commence comme un journal de bord, puisque j'étais parti sur cette intention-là, de voyager en Chine et de raconter la Chine et les Chinois, entre guillemets. Donc le livre commence comme ça s'est passé, on est sur effectivement un carnet de route, des phrases assez courtes, des faits, ce que je fais, ce que je vois, ce que je ressens. Et au fur et à mesure du voyage, dans une sorte de solitude un peu mise en place par moi-même, la langue a commencé à prendre de plus en plus de place et j'ai commencé à remplir un peu tous ces instants de vide et d'ennui parfois par des textes qui sont allés au-delà et qui sont devenus beaucoup plus personnels et intimes. Le grand-père notamment prend une place déjà dans ce livre Solitude, et puis d'autres, mon enfance, on est beaucoup sur l'enfance sur ce voyage-là. Alors du coup, ce que je veux dire, c'est que autant les textes et les photographies en fait ne marchent pas seuls, ne marchent pas l'un sans l'autre.
Vous êtes sûr que certains de ces textes, on ne pourrait pas les isoler quand vous parlez du grand-père, quand vous parlez de ce qui est lié à l'enfance?
C'est-à-dire que oui, certains textes sont suffisamment forts ou en tout cas touchants pour peut-être exister seuls, comme certaines photographies. Mais le livre, l'histoire que je raconte dans le livre, c'est dans le lien entre ces textes et ces images.
En dehors de votre photographie, quelles images aimez-vous regarder en général ? Quelles photographies aimez-vous ? Allez-vous voir celles des autres ?
Bien sûr. Oui, oui, je me fais mon éducation quand même, beaucoup les livres. Après, ça dépend. Les périodes où je suis en préparation d'un livre, où j'écris moi-même beaucoup, ou alors où je photographie moi-même beaucoup, j'ai beaucoup de mal à voir le travail des autres. Parce que du coup, je suis complètement empêché par mon propre travail. Donc j'ai des périodes en général où je ne vois rien, puis j'ai des périodes où je me recharge. Mais je crois que je vois peut-être plus de films que de photographie, par exemple, et je lis probablement plus de romans que je ne regarde de livres de photos.
Ah ah, voilà. Ça veut dire que vous êtes un grand cinéphile, que l'image cinématographique peut vous inspirer pour votre travail.
Oui, par exemple dans la manière dont je construis mes livres. C'est-à-dire que sur Solitude et sur mon livre Pépé, qui sont deux livres chronologiques, la manière dont moi je fais la mise en page et je raconte l'histoire page après page, pour moi c'est comme si je montais un film. Moi par exemple, je ne sais pas vraiment regarder ces livres autrement qu'en commençant en début et en allant jusqu'à la fin. C'est comme un film qui se déroule, comme un montage qui se déroule, mes textes étant peut-être un peu des sons dans ma tête, et les images, voilà, les plans du film.
On va y venir, notamment avec ce projet que vous réalisez, là, qui sort en livre et qui va être exposé, Pépé. Peut-on parler d'Orion François maintenant, de votre choix du noir et blanc?
Alors qu'en cinéma, je suis très couleur, je dois dire qu'en photo, c'est le noir et blanc qui, moi, me... Pour l'instant, je crois que c'est que comme ça que je sais vraiment m'exprimer, parce qu'il me semble qu'on est plus sur une intention, sur l'évocation d'un sentiment et d'une atmosphère, plus que sur le... comment dire ? Je pense que les couleurs nous disent trop ce qu'on doit regarder sur une image. Alors que je pense que le noir et blanc, bien sûr, c'est la lumière.
Le noir et blanc met une distance, peut-être.
Laisse un espace pour celui qui regarde, je crois, et insérer un peu quelque chose de lui-même dans le regard qu'il porte sur l'image.
D'Orion François, en septembre, bientôt, on va pouvoir découvrir votre travail qui s'intitule Pépé, avec une première exposition qui aura lieu à la galerie Fête et Cause à Paris, rue Quincampoix. En janvier 2019, vous serez au Centre culturel de Bergerac, on verra aussi pourquoi. Et puis, il y a un livre, Pépé, qui sort aux éditions du Silence. Et c'est donc un travail, Pépé, très personnel. Racontez-nous. D'abord, l'histoire de ce projet, quand ça n'était juste qu'un projet au début.
Alors, Pépé, c'est donc le surnom de mon grand-père, paternel, originaire de la ville de Bergerac. Ça commence en juin 2014. À ce moment-là, je reviens de Chine, sur un des voyages qui ont fait le livre « Solitude ». Je suis déjà dans cet exercice d'écriture et de photographie à ce moment-là. Je rentre de Chine. Ma grand-mère était atteinte d'Alzheimer depuis quelques années. Et à ce moment-là, ça s'est gravement accéléré, détérioré. C'est mon père qui me le fait savoir. Et ma grande-tante, qui est donc la sœur de Pépé, qui s'appelait Tati Pierrette, elle, tout d'un coup, est devenue, comme on disait, folle. Tout d'un coup, elle me semblait qu'elle avait perdu la tête. Elle qui vivait à ce moment-là à l'EHPAD de Bergerac. Donc je vais à Bergerac en juin 2014. Et effectivement, la situation est un peu violente, déroutante. Donc je fais des photos et j'écris à la fois parce que j'étais dans cet exercice en rentrant de Chine et parce que c'est un peu ce que je sais faire pour, je pense, me mettre à distance finalement de ce qui était en train de se passer, essayer de comprendre ce qui se passait. Et la semaine suivante, le hasard de ma présence est au même moment du décès de ma grand-mère. Les choses s'enchaînent. En août 2014, ma grande-tante décède des suites de ce que nous avons supposé être de la démence. Donc cet été 2014 est prenant. C'est un tournant, ce sont pour moi les premières morts familiales, proches et sentimentales. C'est des gens que j'aimais beaucoup. Et donc dans un petit recul professionnel, je me dis tiens, c'est intéressant ce que j'ai écrit, ce que j'ai photographié, je devrais continuer. Et surtout dans un recul personnel, je réalise que ça me fait du bien d'essayer de me rapprocher. Je sens que quelque chose est en train de disparaître petit à petit et je me dis, j'aime mon grand-père, j'ai envie d'essayer d'en garder quelque chose.
Il ne reste que votre grand-père, là, pour le coup.
En août 2014, il ne reste plus que lui.
Voilà, et en même temps, vous dites que vous avez envie de vous rapprocher de lui. Et en même temps, tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'avec la photographie, on pouvait prendre une certaine distance.
Tout à fait.
Avec les événements.
Oui.
D'Orion,
oui.
François.
Je pense que c'est un mélange. Là, il y a ce que j'ai pu penser sur le moment, et puisque aujourd'hui, avec le recul et avoir mis le livre en place, j'arrive à exprimer. Donc, il y a un petit décalage probablement qui vient de ça, mais Disons que je me suis imposé d'aller le voir plus souvent que je n'allais le voir avant. Et donc, en gros, je suis allé le voir tous les deux mois pendant 3 ans et demi. Et j'ai accompagné finalement ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire d'être veuf, sachant qu'à Bergerac, il ne vivait plus personne de la famille à part lui. Mon père était en région parisienne. À l'époque, moi, j'étais encore en région parisienne, donc mon grand-père était seul. Et quelques mois plus tard, pendant que je suis en Chine à nouveau, il tombe dans ses escaliers. Il se casse le col du fémur, le sacrum, il part en convalescence 4 mois. Pendant ces 4 mois, on voit bien que son indépendance, la perte d'autonomie est forte. Donc on vide la maison, qui est la seule que moi je n'ai jamais connue. Je pense que ça faisait 30 ou 35 ans qu'ils y étaient. Et nous rentrons, enfin il rentre, en EHPAD. Et ensuite, il y a eu 2 ans de vie à l'EHPAD, que j'ai donc...
documenté,
accompagné, visité, documenté, appris à connaître, alors que entre guillemets, j'étais pas censé connaître cet endroit-là.
Et tout. Pourquoi n'étiez-vous pas censé connaître cet endroit-là, alors que nous sommes tous appelés à vieillir? Parce que vous êtes jeune?
Oui, bêtement, parce que je suis jeune et que effectivement, a priori, n'étant travaillant pas dans ce milieu-là, c'est vrai que, et c'est ce que je me suis aperçu, ces lieux nous sont pas cachés, mais c'est... on n'en parle pas du tout.
Dorian François, on va revenir à votre travail photographique, mais avant, je voudrais savoir si au-delà de cette histoire très personnelle qui s'intitule Pépé, il y a une sorte de message à donner aux spectateurs de vos photographies, par exemple, sur les conditions de vie des personnes âgées dans ces EHPAD, par exemple, sur la vieillesse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous importe ou c'est vraiment uniquement l'histoire personnelle que vous avez envie de transmettre aux spectateurs ?
Non, j'ai pas la prétention d'avoir un message particulier. Le livre est volontairement un huis clos autour de notre intimité, notre famille et de Pépé. Parce que ça, je le maîtrise. Et cette sincérité-là, je peux l'avoir. Cette honnêteté-là, celle-là, je peux l'assumer. Donc, non, moi, c'était la volonté de mettre des mots et de poser des réalités sur les questions de mort, de vieillesse, de maladie, de comment une famille, en l'occurrence dans cette histoire, c'est essentiellement mon père et moi, arrive à gérer ou pas de tels événements de la vie. Après, en marge de l'exposition, notamment quand elle sera à Bergerac, là, on va organiser des visites avec du public et on va organiser des débats autour de la question de la vie à l'EHPAD. Là, j'aimerais que l'exposition, elle, parce qu'elle est plus démocratique que le livre, parce que accessible, gratuite, là, qu'on puisse aller au-delà de mon histoire intime et personnelle.
Pour avoir vu les photographies dans le livre Pépé, je peux vous dire qu'elle va au-delà, parce que il y a dans vos très très belles images, vraiment elles sont magnifiques, en noir et blanc, des attitudes de personnes âgées, des regards, des postures que l'on reconnaît. On les a tous vus. Par exemple, il y a une photographie que j'aime vraiment vraiment beaucoup, c'est vous êtes derrière votre grand-père, il a juste les mains comme ça, croisées dans le bas du dos. Et alors ça, je trouve que c'est une photo qui, enfin moi, qui me fait penser à mon grand-père maternel. Donc ça va bien au-delà, à mon avis, de votre histoire personnelle, sans parler des messages qu'éventuellement vous auriez envie de passer, Dorian François. On va regarder une photographie, c'est celle qui fait la couverture du livre, mais la personne qui la regarde ne le sait pas, puisque cette personne est un jeune homme, c'est important de le savoir, il a 16 ans et il est en stage à France Inter. Il s'appelle Camille Bossard.
Donc là, je regarde une photo en noir et blanc avec un homme de dos qui regarde au loin avec sa main gauche qui soutient sa tête. On ne voit pas beaucoup son visage, mais on peut voir qu'il a des rides. Cet homme a les cheveux gris, il est plutôt vieux. Il a un béret gris aussi, un manteau noir, une bague à un de ses doigts. Et cette bague doit sûrement être une alliance. Donc on pourrait penser qu'il pense à sa femme qui aurait peut-être disparu ou simplement à la maison et il pense simplement à elle.
Merci Camille Bossard. Dorian François, vous savez que Camille ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Hein. Il voit cet homme Et il en parle, tout simplement. Et en fait, il a vu beaucoup de choses, grâce à cette alliance, par exemple, et aussi à la position de la main sur sa joue.
Ah oui, bah il s'est pas trompé, parce que le béret est une casquette en velours plus vert que gris, et la veste aussi, et c'est une photo donc de Pépé, le jour du décès de ma grand-mère. Donc pour le coup, il a vu l'image. Hein.
Il a vu l'image, il a vu toute l'histoire.
Il a vu toute l'histoire, cette alliance qu'effectivement il a gardée, je crois vraiment ne pas me tromper, jusqu'au bout. Donc même 3 ans et demi après son décès, jusqu'à son propre décès à lui, qu'il n'a jamais quitté. Donc c'est pour ça qu'elle est en couverture, non seulement parce que photographiquement, certes, c'est probablement une bonne image, mais surtout parce que dans ses détails, elle résume.
Comment vous savez que c'est une bonne image? Parce qu'il y a toutes sortes d'images. Hein. Il y a des images de la rue, il y a des images des lits à l'EHPAD ou dans la maison. Il y a des diptyques, il y a des panoramiques, il y a des paysages, il y a la gare, sans doute celle de Bergerac, où vous arrivez, vous repartez. Comment vous les sélectionnez? Qu'est-ce qui fait que là, vous allez vous arrêter et vous dire celle-là, elle ira dans le livre?
Bon, déjà, on n'est jamais tout à fait seul. Il y a toujours des regards amis qui sont un peu derrière tous les projets et qui aident des fois à choisir quand on ne sait pas trop. Mais il est vrai que pour le coup, dans celui-là, les choses se sont... Je vais reprendre cette idée de film, quoi. C'est-à-dire que comme on est sur une chronologie, je pars des textes, en fait. Je suis parti des textes sur cette histoire, sur ce livre. Donc c'est d'abord les textes qui racontaient l'histoire, qui me semblaient les plus justes, les mieux écrits, même si je les retravaillais. Et ensuite, j'allais chercher les photos prises dans le temps autour de ce texte. Et après, je les posais les unes derrière les autres, je tournais les pages du livre, ou en tout cas les pages du PDF sur ordinateur, et petit à petit, les choses se mettaient en place.
Et les textes sont importants, parce que quelquefois, vous procédez par SMS. Quelquefois, vous avez plusieurs catégories, son, couleur, obsession, phrase. C'est là, c'est vrai, où on pense au film. On a vraiment envie d'ouvrir le livre et de trouver la bande-son.
Oui, cette idée de son, couleur, obsession et phrase qui est surtout au début de l'histoire, je sais plus du tout comment la chose est venue. Avec le recul, il me semble que c'est vraiment le début et je crois que, en fait, sans me l'avouer, à l'époque, j'étais vraiment choqué par ce qui était en train de se passer et donc je m'arrêtais aux faits vraiment les plus, ce que je vois, ce que j'entends et la phrase qui m'a marqué le plus dans la journée. Donc ça s'est posé comme ça. Et ces SMS et ces appels, c'est principalement ceux entre moi et mon père. Parce qu'encore une fois, on était très lié tout au long de cette histoire. Et c'est vrai que, de manière un peu compulsive, à chaque fois qu'on avait un SMS ou un coup de fil à propos de Pépé, sans lui dire au début, je notais tout.
À quel âge est-il parti, définitivement?
Juste avant ses 88 ans.
Donc le livre Pépé est là. Merci Dorian François, bon retour à Nantes. Et on se voit très bientôt donc à la galerie Fête et Cause à Paris. Au revoir.
Merci.
Le livre Pépé sort en septembre par les éditions du Silence. À la galerie Fête et Cause, Pépé s'est exposé à partir du 25 septembre. Et puis Dorian François a un site, dorianfrançois.com. Pour Julien, c'est pareil, il a un site, julienmagre.fr. Des expositions jusqu'au 2 septembre, elle, à la Biennale de la photographie de Mulhouse. Et puis jusqu'au 16 septembre à Paris, un extrait de sa résidence PMU est exposé à l'hippodrome de Longchamp avec un livre à paraître chez Filigrane, « La robe et la main ». Emmanuelle Brisson, elle aussi, a un site, emmanuellebrisson.com. Samedi prochain, je vous donne rendez-vous à 14h pour rencontrer la photographe Hélène Jaillet. D'ici là, portez-vous bien, allez nous voir sur les réseaux sociaux, sur la page Regardez voir avec franceinter.fr. Tout y est, grâce à Perrine Malinge, infos, photos, podcasts. Marie-Hélène Fauquet réalise Regardez voir, avec donc Perrine Malinge, Thierry Dupin aussi pour la programmation musicale, et à la technique de Julien, Julien Michel et Julien Dumont. Dans peu de temps, après les informations, vous avez rendez-vous avec Jacques Higelin, la série des médias francophones publics. Bel après-midi.